Bonjour tout le monde, c'est Isabelle qui vous parle en ce début de semaine qui s'annonce dans le rouge, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez peut-être vu l'émission Tout le monde en parle hier où le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous annonçait des décisions difficiles qui seraient à venir, des décisions qui nous seront d'ailleurs annoncées à 17h30 aujourd'hui en point de presse. Alors, vous serez à l'écoute de nos ondes, bien sûr, parce que nous allons vraisemblablement diffuser, comme d'habitude, ce point de presse du premier ministre du Québec, 17h30 aujourd'hui. D'ici là, bien sûr, c'est quand même un certain branle-bas de combat là, qui est ressenti un peu partout, dans à la fois les milieux de travail, peut-être chez vous, si vous demandez-vous quelle allure ça va prendre, cette affaire-là. Évidemment, hier, puis j'ai envie de vous le faire réentendre, Christian Dubé commençait déjà à nous donner quelques indications.
Il va falloir trouver dans la zone rouge un arrangement, un équilibre pour qu'on puisse continuer à envoyer nos enfants à l'école, pour qu'on puisse continuer à travailler, qu'il y ait un minimum de commerce qui fonctionne pour que l'économie fonctionne, mais en même temps, protéger les éclosions, parce que ce qui est mis à mal en ce moment, c'est notre système de santé. Est-ce qu'on va réduire le nombre de personnes qu'on peut avoir à la maison? Ça va être des décisions qui vont être très difficiles. Il va falloir clarifier le message, parce que là, ce qu'on dit aux gens, ça va être « restez chez vous ».
Oui. Mais ce message de rester chez vous, avouez qu'on l'a entendu quand même pas mal la semaine dernière. Alors, quelle forme ça va prendre, cette zone rouge-là? Je vais vous poser la question, puis je vais vous demander vos solutions à vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait fermer, par exemple? Là, on comprend là, que bars, restaurants, on va leur demander un certain sacrifice social.
On va demander un sacrifice social important, éliminer les parties, mais les 28 prochains jours vont être difficiles. Il y a quand même une certaine façon de donner des pénalités. On voulait pas aller là, mais je pense qu'il va falloir aller là parce qu'il y a une catégorie de personnes qui n'écoutent pas, mais c'est eux qui nous mettent aussi dans le trouble. C'était correct de garder les bars ouverts il y a un mois, deux mois. C'était la bonne chose parce que les gens avaient besoin d'évacuer. Mais là, en ce moment, je vous dirais que c'est comme si on a besoin de donner un coup, de retourner chez eux. Donc, les deux périodes de 14 jours qu'on demande, ben c'est sûr qu'il va y avoir des décisions difficiles pour les bars, les restaurants. Il faut pas se le cacher.
Et non, c'est clair. Et là, bon, est-ce que c'est ce qui nous pend au nez, et surtout à l'industrie des bars, restaurants, la distribution des restaurateurs également? On va faire la tournée pour avoir leur réaction. Jean Bédard est président et chef de la direction du groupe Sportscène, les fameuses La Cage. Bonjour, Monsieur Bédard.
Bon matin.
Votre réaction après avoir entendu Christian Dubé et bon là, ce qui va venir, c'est le premier ministre François Legault. C'est en fin de journée aujourd'hui. Vous vous attendez à ce qu'on vous demande donc de fermer?
Ben écoutez, on vit beaucoup dans l'incertitude, là, je dirais, depuis quelques jours. Est-ce qu'ils vont nous fermer? Est-ce qu'ils ne nous fermeront pas? De façon qu'on va le faire. Donc, c'est très stressant, là, je pense, pour tous ceux qui sont des acteurs de cette industrie-là, là, les bars, les restaurants, évidemment, parce que c'est de ça beaucoup qu'on parle. Écoutez, on a confiance au jugement de notre gouvernement, mais en même temps, évidemment, moi, je pense beaucoup là, à tous les employés là, qui, depuis mois de juin, juillet, sont revenus au travail de façon courageuse. Je pense qu'on a mis les efforts, autant les bars, les restaurants, là, pour se plier à toutes ces mesures-là là, qui sont nécessaires puis qui, en fait, qu'on a même renforcé au cours des dernières semaines. Mais évidemment, là, on attend de voir comment ça va être appliqué. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle stratégie on va prendre en termes de région, de localisation. Ça va-tu être très ciblé ou on va y aller avec des grands secteurs comme on a fait au début, là, quand ça a été le temps de déconfiner. Donc, c'est ça, on est un peu dans l'incertitude et inquiet, évidemment, là, de ce qui s'en vient, ce qui nous attend.
Ouais. Est-ce que vous l'aviez vu venir, cette deuxième vague, vous, un peu comme tout le monde, mais est-ce que vous pensiez que ça allait frapper si tôt? Parce qu'on se souvient que la semaine dernière, moi, je m'étais adressée à des microbiologistes, des médecins épidémiologistes également, qui nous prévenaient. Entre autres, un d'entre eux nous avait dit, d'ici le 20 octobre, il faut s'attendre à ce que le chiffre par jour dépasse les 1000 nouvelles éclosions. Là, on est rendu à 896 en date d'hier. C'est clair qu'aujourd'hui, probablement au cours de la prochaine heure, on va apprendre que ça a dépassé le 1000. Comment vous avez entrevu tout ça, Jean Bédard? Vous deviez voir ça venir un peu puis dire, oh mon Dieu, ça va nous repéter en pleine face, cette affaire-là.
Oui, absolument. Je pense que je l'avais dit souvent dans mes entrevues. Je me disais, cet été, je pense que ça va bien aller. On est supporté un peu par des programmes du gouvernement. Il a fait beau, il y a des terrasses. Évidemment, le virus diminuait sa propagation. Moi, je disais tout le temps, je pense que le gros défi, on va l'avoir à l'automne. Moi, personnellement, je disais après l'action de grâce, évidemment, c'est un petit peu plus tôt que prévu, mais je regarde ce qui se passe beaucoup aussi à l'extérieur, là, pas juste au Québec et tout ça, puis je me suis dit, oh, ça va nous revenir ça, puis l'impression que les 6 prochains mois vont être en dentis pour tout le monde, en fait, pour les restaurants, les bars, évidemment, parce qu'on est... On est quand même ciblé, là, je pense, dans les mesures qui peuvent être possibles là, pour ralentir la propagation.
Ben c'est clair, ça, il l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure. Christian Dubé disait qu'on va demander des sacrifices importants aux restaurateurs et aux propriétaires de bars. Pour vous, Jean Bédard, pour vos employés, mais aussi pour vos collègues de l'industrie, tous ceux qui sont propriétaires de salles de restaurants, les petits restaurateurs aux moyens, aux plus gros comme vous. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on vous ferme à nouveau ou qu'on mette des conditions tellement restrictives que les gens n'iraient plus du tout, là?
Ben écoutez, on a toujours dit qu'une deuxième vague de fermeture va être catastrophique. Encore une fois, on a espoir que ça soit fait de façon courte période et ciblée en termes de région. Puis je prends mes exemples. Des fois, la Montérégie, c'est bien grand. S'il y a un problème du côté de Châteauguay, bien évidemment. Peut-être que c'est loin de Saint-Julie et tout ça. Donc, est-ce qu'on va y aller un peu comme la France a fait? Là? Ils vont par ville. En fait, eux autres ont des codes de couleur régionales, mais quand ils décident de restreindre certaines choses comme les bars et les restaurants, ils vont de façon beaucoup plus locale, ciblée. Donc, ça a un effet, un équilibre entre les impacts, évidemment, sur la santé, mais également les impacts économiques. Donc, on attend de voir comment qu'on va gérer ça. On va avoir, je pense, une bonne idée aujourd'hui.
Ouais. En même temps, fermer les bars, puis on va parler tout de suite après là, au porte-parole de l'industrie des bars, fermer les restaurants, est-ce que ça aurait vraiment un impact, d'après vous, sur tous ceux qui, en fin de semaine, allaient aux pommes, les stationnements étaient pleins, personne ne portait des masques parce qu'ils comprenaient qu'être dehors, c'est pas grave. Tous ceux qui jouaient puis qui dansaient au tam-tam sur le Mont-Royal, quand vous regardez ça, avez-vous pas l'impression qu'on pénalise votre industrie?
Ben en fait, moi je le dis depuis le début, je pense que notre industrie a été impeccable. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers. On se lave les mains quand on rentre dans un restaurant, on a un masque, on garde nos distances, c'est ce qu'on nous dit de faire, puis c'est un environnement contrôlé, les policiers peuvent venir. Moi, je pense encore que c'est les parties privées le problème, et c'est là qu'on devrait se concentrer, mais malheureusement, j'espère, ben écoute, je suis encore très optimiste, parce qu'on a parlé beaucoup de ça la semaine passée, puis moi, ça me faisait du bien quand on entendait M. Dubé dire que tu peux aller manger au restaurant avec ta famille ou ton conjoint, puis tu es en sécurité parce que c'est encadré, puis tout ça. J'espère que ça reste dans la pensée de nos dirigeants aujourd'hui, parce qu'effectivement, nos environnements sont sécuritaires, les gens sont disciplinés.
Mais Monsieur Bédard, excusez-moi, ouais, mais je vous remets en tête les paroles de Christian Dubé. On les a fait réentendre.
Oui,
il a dit non, on va demander un sacrifice important aux restaurateurs et aux propriétaires de bars. Moi, j'ai compris ça. J'ai pas compris qu'il était bien optimiste puis qu'il vous laisserait tranquille.
Ce que je disais, quand je dis que c'est un peu en dentis, c'est que pas plus tard qu'il y a quelques jours. C'est le discours que les gens avaient, c'est que c'est quand même, si c'est encadré chez nous. Là, il semble avoir un changement, puis je veux dire, ça va tellement vite dans cette crise-là qu'évidemment, il y a des choses qui changent rapidement. Mais je continue de dire qu'on a des environnements sécuritaires, c'est organisé. Puis
oui, je comprends que ce soit votre message, mais intérieurement, vous devez être un peu fru, non?
Ah oui, ben en fait, je suis pas fru, je suis pas de nature fru. J'attends d'avoir. J'aime pas anticiper mes réactions. Évidemment, on va attendre d'écouter ce qu'on va avoir à nous dire avant d'avoir une réaction. Faut rester encore. On n'a rien entendu d'officiel non plus. Fait qu'on va attendre de voir. Après ça, on pourra commenter.
C'est sûr.
On aura vu de la façon que les gens voient ça.
Ouais. Selon le code couleur, quand même, du gouvernement du Québec, l'alerte rouge, ça veut dire on cesse les activités non essentielles pour lesquelles il y aurait un risque qu'on ne pourrait pas contrôler suffisamment. C'est pas un confinement généralisé comme la première vague, mais il y a plus d'activités non essentielles. Les restaurants, c'est là-dedans.
Oui, absolument. Puis je suis d'accord avec ça. S'il y a des zones où c'est risqué, évidemment qu'il faut limiter ça au maximum. Mon point, c'est plus ça va être quoi les zones, comment ils vont être définies. C'est ça qui me préoccupe davantage que de dire si on a un secteur, qu'il y a vraiment une grosse propagation. Je suis entièrement d'accord avec ça. On l'a fait, on a toujours été en arrière des mesures du gouvernement depuis le début. Maintenant, on va attendre de voir comment ça va être interprété, tout ça. Est-ce qu'on le fait à grandeur? Est-ce qu'on le fait de façon plus localisée? Ben ça, on va le savoir en fin de journée aujourd'hui. Ouais. C'est ça qu'on on vit encore un peu d'espoir. C'est pour ça que je déchire pas encore ma chemise. Loin de là.
En même temps, les régions, c'est assez facile. À partir du moment où on annonce que la capitale, Québec, et puis la métropole Montréal sont en zone rouge, on peut voir un peu quel va être le portrait du Québec, là. Même s'il y a un îlot ici et là qui est encore en jaune ou orange.
Ouais.
Je veux dire, ces deux grosses zones pour votre industrie, ça.
Oui, absolument. Ah non, mais on le sait qu'on s'en va vers des décisions difficiles, puis je pense que le gouvernement n'a pas le choix de prendre des décisions difficiles. Là, c'est difficile de commenter. On ne sait pas comment ça va être fait, comment ça va être appliqué. C'est-tu pour des courtes périodes? C'est-tu indéfini, tout ça? Là, en ce moment, on est juste, comme j'ai dit au début de l'interview, dans une zone d'incertitude. Mm-hmm. On se pose des questions. Tout le monde est stressé, puis on va attendre de voir comment qu'on va avoir à gérer ça. Mais évidemment, on s'en attendait qu'il y avait des mesures pour des établissements comme les nôtres.
Merci beaucoup, Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe SportsCen. Écoutez, c'est sûr qu'il ne veut pas tout de suite crier à la Bérésina, mais c'est sûr que ça ne regarde pas bien là, si l'industrie des restaurateurs jugée non essentielle est obligée de fermer à cause de la zone rouge. Ça le dit bien, zone rouge, ça implique qu'on cesse toute activité non essentielle pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment parce qu'on veut éviter de revenir à un confinement généralisé. C'est sûr qu'on ne veut pas ça. Comment vous voyez l'organisation de ça, là, cette zone rouge qu'on annoncerait éventuellement dans les deux plus grands centres de population au Québec, c'est-à-dire la métropole de Montréal, la ville de Québec et la zone de la capitale nationale, c'est quand même pas rien. Dites-moi, comment vous voyez ça, vous? 514-790-9850, un peu partout au Québec, le 1-866-790-9850, puis je vais parler au président directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec tout de suite après ceci pour avoir sa réaction. Marie-Ève me demande, pouvez-vous m'éclairer s'il y a fermeture des restaurants et des bars, est-ce que ce serait seulement dans les zones rouges ou partout au Québec? C'est pas clair, vous avez raison Marie-Ève, c'est pas clair parce qu'on va le savoir un peu plus comment ça va fonctionner. Ce soir à 17h30, le gouvernement du Québec ne l'a pas encore annoncé comment il avait l'intention d'appliquer des règles sanitaires en zone rouge. Tout ce qu'on sait, c'est que selon le code couleur qui nous a été expliqué il y a deux semaines, l'alerte rouge, ça veut dire qu'on va cesser toutes les activités qui ne sont pas considérées essentielles. Ramenez-vous à cette période pandémique, là, quand on était en confinement, au mois de mars, avril, mai, par exemple, vous pouviez pas aller vous faire coiffer, vous pouviez pas aller chez le dentiste. Est-ce qu'on va aller jusque-là? On le sait pas. François Legault, le premier ministre, va le dire avec plus de détails à 17h30 ce soir. D'ici là, on peut juste émettre des hypothèses, puis on peut leur suggérer des mesures aussi, des façons d'appliquer ça. C'est un peu ce qu'on fait, nous, ce matin. Puis je vous demande là-dessus, d'ailleurs, de réagir au 514-790-9850. Est-ce que vous estimez que c'est normal de dire aux restaurateurs, on va être obligé de vous reconfiner, vous refermer dans certaines régions rouges. Même chose pour les bars. Pensez-vous que avoir des bars ouverts aujourd'hui, c'est encore une bonne décision? Renaud Poulain est président directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Bonjour, Monsieur Poulain.
Oui, bonjour.
Bon, êtes-vous plus inquiet que M. Bédard, qui, lui, je le trouvais bien optimiste? Tant mieux, il en faut des optimistes. Mais vous êtes où par rapport à ce que, quand même, Christian Dubé a quand même dit qu'on allait vous demander des sacrifices importants? Moi, je comprends que ça veut dire qu'on va probablement vous demander de fermer, ou en tout cas, ça prend cette tangente-là. Vous en comprenez quoi, vous?
Ben nous, on comprend pas plus que vous, là, mais on est quand même très inquiet. Si on regarde la tangente, comme vous l'avez dit, ça regarde pas tellement bien pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire, mais qu'on est très inquiets, ça, c'est sûr.
Si on vous impose une fermeture là, pour encore, mettons, 2, 3, 4 semaines, on parle de 28 jours. Christian Dubé parlait du fameux 28 jours, c'est 4 semaines, c'est un mois. Fermé, mais disons qu'on dit, OK, dans les zones rouges, les bars, les brasseries, les tavernes vont être fermées pour 28 jours. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous et votre industrie?
Ah, ça va être difficile financièrement parce que les gens, en ce moment, ils ont accumulé des dettes, ils travaillent pour les payer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Si on ferme encore un autre 28 jours, c'est encore des dettes supplémentaires. Si on s'en va vers vraiment des fermetures de commerce, ça, c'est inévitable. Mais une autre fermeture va augmenter encore le nombre.
Oui. Comme vous regardez ça, M. Poulain, je vous pose la même question que j'ai posée tout à l'heure au président de la CAGE, ex-CAGE au sport. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme un acharnement un peu sur ces industries où c'est vrai, il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de monde qui y vont, puis c'est des endroits où on est collé, où c'est difficile, des fois, là, de respecter le 2 mètres. Bon. Avez-vous l'impression, d'une certaine façon, quand même, qu'il y a comme des règles qui s'imposent peut-être de façon un peu injustifiée, alors qu'il y a bien des gens qui font les parties à la maison, qui vont jouer du tam-tam sur le Mont-Royal? Comment vous voyez ça, vous, Renaud Poulain?
Ben nous, qu'est-ce qu'on voit, c'est que justement, c'est un manque de communication. On aurait pu mieux travailler. C'est évident qu'un d'un bar, les gens ils rentrent dans le bar, c'est pour socialiser aussi, mais au moins, on a un certain contrôle. On aurait pu travailler avec les policiers, on aurait pu travailler avec le gouvernement, améliorer les conditions. On l'a fait avec l'Auto-Québec. Mais là, on trouve ça décevant. Parce que vous le dites vous-même, s'ils ne sont pas dans les bars, ils vont se ramasser dans les maisons, dans les parties privées, puis là, il n'y a plus aucun contrôle. Ça va être final. Tandis qu'au moins, avec nous, on aurait pu, je ne sais pas, trouver des solutions, essayer d'améliorer les solutions, améliorer les bars. On a coupé à 50%, on aurait pu regarder d'autres options, mais on n'a rien regardé. On parle tout le temps de fermeture. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. Là.
Mm-hmm. Comment vous feriez ça, sinon? À partir du moment où on voit quand même une augmentation des éclosions au Québec, et en particulier dans la région de Montréal, dans la région de Québec, Capitale-Nationale, comment vous joueriez ça, vous, cette augmentation des cas?
Ce qu'on voit, c'est pas nécessairement dans les bars. On le voit aussi, une éclosion un peu partout, mais pas nécessairement dans les bars.
Mm-hmm.
Fait que, on a pris des mesures quand même très, très drastiques au niveau d'Auto-Québec pour les appareils, tout ça. On a pris des mesures de 50% au niveau de la capacité. On a coupé le karaoké, tout ça. On a fermé les heures. Si on aurait pu, puis les visites policière, si elle avait été faite avant, il y a un mois, il y a 5 semaines, ça aurait aidé aussi, ça. Mais on aurait pu trouver des solutions, en tout cas. Si on ferme les bars, je pense pas que les gens vont arrêter de festoyer, ils veulent socialiser, ils vont le faire ailleurs. On l'a encore vu, comme vous le dites, hier encore, à Montréal, là, lors de la soirée des Tam Tam. Les gens se sont rassemblés là parce qu'ils veulent rencontrer des gens. Fait que là, il n'y a plus aucun contrôle, là.
Mm-hmm. Vous dites, nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On a même pris la peine de faire une campagne de sensibilisation auprès de nos membres propriétaires de bars et tout ça. Bon, vous suggéreriez quoi, par exemple, au premier ministre du Québec aujourd'hui, là?
Nous, premièrement, si jamais il y aurait des fermetures de bars, il faudrait vraiment que ce soit ciblé dans des zones précises. Pas fermer toute une grande ville pour absolument rien. Il faut bien comprendre qu'on parle tout le temps d'une clientèle de 18 à 34 ans problématique, mais c'est pas nécessairement la réalité d'un bar aussi. Fait qu'on pourrait, nous, les zones, ce serait vraiment important là, qu'on cible les endroits spécifiques s'il faut en fermer. Puis les autres endroits peut-être serrer aussi, les corps policiers pourraient passer plus souvent, peut-être donner des amendes, quoi que ce soit. Mais en ce moment, nous, on constate que ça va quand même assez bien. C'est pas les bars qui sont problématiques en ce moment, là.
C'est quoi, d'après vous?
Ben, on l'a vu ailleurs. On l'a vu dans les parties privées, dans les rassemblements. On l'en voit dans les écoles. C'est plus dans les bars qu'on voit des gros éclosions, là.
Mm-hmm. Vous feriez quoi, donc, pour essayer de colmater les brèches dans les parties privées ou auprès des gens là, qui semblent plus entendre le message du gouvernement?
Ben, dans les bars, au moins, on a quand même un certain contrôle. On a de la surveillance. On peut peut-être les aviser. On peut peut-être faire des choses que dans les parties privées, les gens font ce qu'ils veulent.
Mm-hmm. Êtes-vous satisfait de l'intervention policière, vous, M. Poulain?
Oui, on aurait bien aimé ça que ce soit avant aussi.
Ouais.
Si ça aurait vraiment aidé, ça a aidé énormément. ça a aidé beaucoup à sensibiliser les clients, tout ça. Ça a aidé aussi à sensibiliser certains propriétaires. On est dans une situation particulière, puis il faut que tout le monde travaille en fonction de sauver les meubles, comme on peut dire. Mais fermer les commerces, ça va vraiment faire mal, parce qu'on va... On tue un peu l'économie, puis ça touche pas seulement que les propriétaires, c'est les employés aussi qui vont être affectés. Les loyers, si on pas payés, ça va affecter aussi les propriétaires d'immeubles. C'est comme une boule qui va grossir. C'est vraiment la dernière solution, fermer une industrie.
Oui, tout à fait. Êtes-vous consulté en ce moment, là, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu un
non.
Non, il y a personne qui vous a appuyé jusqu'à maintenant?
Non. On se parle un peu dans l'industrie, là, avec les autres partenaires, avec les autres ministères, tout ça. Le ministère de la Santé publique fait ces choses seul, il consulte pas. Puis on a toujours l'impression que ces gens-là connaissent pas vraiment l'industrie. Il y aurait peut-être eu des décisions qui auraient été prises différemment, mais il n'y a aucune consultation.
C'est fascinant, ça, quand même. Là. Vous me dites que là, on est peut-être à la veille de vous refermer. On le sait pas, là, puis bon. Mais c'est un peu un mot à peine caché ce que laissait sous-entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier, quand il dit on va demander un sacrifice important à l'industrie des bars et restaurants. Je veux dire, c'est la prochaine étape, là, c'est de refermer. Donc, si on ne veut pas en arriver là, normalement, on devrait vous consulter. Il me semble que je vous appellerai puis je vous dirai comment vous voyez ça, comment on peut faire là, pour éviter ça. Mais vous me dites pas d'appel, vous avez personne vous a appelé.
Non. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. On l'a vécu dans les années précédentes avec les anciens gouvernements. La seule fois, quand ils nous appellent, généralement, c'est un fait qui est acquis. Ils vont nous appeler comme un exemple, le karaoké, c'est fini, on vous dit que c'est fini. On ne consulte pas, c'est décidé. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est évident que si on aurait pu, je ne vous dis pas qu'on aurait trouvé des solutions nécessairement, mais ça aurait coûté quoi s'asseoir avec l'industrie puis regarder s'il n'y a pas des solutions à apporter aussi. Mais ça ne s'est pas fait.
Merci beaucoup, M. Renaud Poulin. On va attendre de voir ce que le premier ministre va annoncer cet après-midi à 17h30. Merci bien. Bonne chance, en tous les cas, pour vous et vos membres là, de cette industrie qui est importante. C'est combien d'employés, M. Poulin, en passant vite, là, votre industrie?
C'est à peu près 5000 établissements qui vont être touchés si jamais il y a une fermeture globale dans toute la province. Au niveau des employés, je ne peux pas vous le dire exactement, on ne l'a jamais comptabilisé.
Merci.
Quand même on parle de centaines et de centaines, de milliers d'employés, là, c'est beaucoup. Là.
Ouais. Merci beaucoup. Renaud Poulin, président directeur général, Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Vos réactions et celles d'un invité également microbiologiste, tout de suite après ceci.
Savoure-moi, savoure-toi, savoure le rouge, mon amour. Savoure-toi, savoure-moi, savoure le rouge, mon amour.
Bon, si Montréal et Québec passent en zone rouge officiellement d'ici les prochaines heures, comment organise-t-on tout ça? Gilles, avez-vous une opinion là-dessus? On parle déjà là, de peut-être fermer bars et restaurants. Est-ce que pour vous, c'est une façon de faire?
Bonjour à tous. L'idée, c'est que là, on est au mois d'octobre bientôt et j'espère qu'on aura la chance encore d'avoir du beau temps, du soleil pour aller dehors. Ça va être le dernier sprint. Ce que j'anticipe, c'est qu'on va avoir 6 mois d'hiver qui s'en vient. Et là, on n'est pas préparé une pandémie à 6 mois d'hiver. On a été chanceux au printemps.
Ouais.
Alors, fermer des endroits en période d'hiver, 6 mois, puis moralement aussi, il y a des choses qui doivent être en priorité. Alors, il faut fermer, mais se concentrer sur où est le bobo. Puis ça, on parle que c'est des jeunes, c'est des écoles. Moi, quand je passe devant des écoles de midi, là, c'est incroyable. C'est tous des rassemblements, tout collés, tout le monde par groupe de 10.
Mm-hmm.
Ils sont tous collés comme si de rien n'était. Si c'est les bars, ben qu'on se concentre sur une promotion qu'on ravise depuis un mois. On dit que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, dans le problème, bon, ben moralement, moi, je sais bien que je vais régulièrement au restaurant. C'est très, très bien tenu. C'est peut-être la clientèle adulte, mais c'est vraiment bien tenu, les adultes. Tout le monde a fait notre devoir là, social et ça va très bien.
Non.
Puis moralement, j'aime ça aller au resto, puis j'ai besoin d'aller au resto. Puis,
donc, vous ne seriez pas, vous, pour qu'on ferme les restaurants? Ni les bars.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut penser aussi que c'est pas juste de fermer, il faut fermer, il faut les priorités aussi, c'est
exact.
Aussi moralement.
Ouais,
moralement.
Tout à fait.
Alors,
et d'ailleurs, là-dessus, Gilles, on va parler vers 11h05, là, on va parler à une psychologue, justement, ça va vous permettre de rester à l'écoute, parce que ça va vous permettre peut-être d'avoir quelques conseils, on en a tous besoin, à savoir comment garder le moral. Hein. Merci beaucoup, Gilles, de votre intervention. André, bonjour.
Bonjour Isabelle, vous allez bien?
Oui, comment vous voyez ça, vous, si on se dit, bon ben là, on entre en zone rouge, comment vous géreriez l'affaire?
J'ai tellement de choses à vous dire. Tout d'abord, M. Poulin, son intervention, c'est tout à fait en harmonie avec ça, tout à fait d'accord.
Mm-hmm.
Et on est très bien contrôlé dans la restauration. Moi, je vais au restaurant régulièrement, c'est d'ailleurs ma seule activité. On me priverait de ça, je serais complètement désarçonnée. Je suis en suivi pour un cancer actuellement, donc c'est sûr que je suis sensible par rapport au système médical qui serait perturbé par la COVID. Par contre, je me dis, il y a tout l'aspect de la santé mentale là-dedans aussi.
Ouais.
Si on confine encore, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose, si on ferme les restaurants à Montréal, qu'est-ce que vous pensez que la population va faire? Ils vont aller dans les restaurants à l'extérieur.
Mm-hmm.
Les gens ne s'empêcheront pas de faire ce qu'essentiellement ils ont le goût de faire. J'ai beau parler de ça avec ma famille, mes amis, il n'y a personne qui se restreint actuellement. Puis je
ah,
comprends
oui?
pas pourquoi.
Ah, oui, vous sentez que les gens, le message passe plus du tout, hein?
Ben, c'est pas que le message passe pas. On n'avait pas le choix en mars, avril. On était confinés. Il y avait un règlement.
Mm-hmm.
Là, le refaire, ça serait catastrophique par rapport à l'économie et tout ça. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens sortent. Mais malgré que je sois sensible et très sensible à cette pandémie-là, je me dis, je pense qu'il faut que les gens l'attrapent. Là. On n'a comme pas le choix. On confine encore, mettons, 28 jours. Ils décident de tout fermer à travers le Québec. Qu'est-ce qui va se passer dans 28 jours? On réouvre?
Je vais poser la question, justement. Merci, André, à Marc Hamilton, microbiologiste. Bonjour, Monsieur Hamilton. Qu'est-ce qui nous attend, là?
Bien, ce qui nous attend, c'est sûr que c'est pas rose, qu'est-ce qui nous attend. Là, on le voit très clairement là, quand nous sommes dans un pic, je dirais pas exponentiel, mais quasiment. Là, à toutes les semaines, on augmente de plus de 200 des cas positifs par rapport à une portion de 200 de plus par jour. Comme on l'avait discuté, rappelez-vous, il y a environ une semaine, on avait estimé qu'en début octobre, on allait être dans les 1000 par jour. Ben, on va l'atteindre. Et moi, j'estime qu'on devrait même être au-delà de ça là, d'ici les 3-4 prochaines semaines, lorsqu'on sera au pic de la deuxième vague. Et pour répondre à toutes les questions, de dire, bon, écoutez, on devrait-tu se confiner ou ces choses-là? Il faut penser, si je fais un retour en arrière, Isabelle, on a été confinés du 22 mars au 4 mai. Donc, le 4 mai, c'est hors Montréal, là, mais le 4 mai, donc c'est 40 jours de confinement total qu'on a vécu. Il faut pas l'oublier, ça. Puis on sait comment ça a été très difficile, puis c'était très difficile sur le moral des gens. Et c'est peut-être c'est ça qu'on veut pas avoir, là, un confinement total, toute la province lockdown. Là, je pense que le gouvernement l'a bien compris, c'est pas ça qui va arriver. Mais ce que je tiens à vous mentionner, c'est que ça n'a pas empêché l'épidémie de continuer pendant que tout le monde était confiné. Il ne faut pas oublier ça. Là. Les pics là, qu'on a eu, 1670 hospitalisations par jour, là, c'est arrivé le 12 mai. Tout le monde était confiné. Il y avait 227 personnes aux soins intensifs le 23 avril. On était confinés. Donc,
c'est intéressant ce que vous nous rappelez. Là. Et donc, pourquoi? Ben, on était confinés, puis il y avait quand même
Le virus, était dans la société. Là, c'est sûr que ces statistiques-là ont été boostées, en guillemets, à cause des CHSLD. Mais il reste que quand le virus est dans la société, puis qu'il y est installé, il va continuer à voyager, même si on est en plein confinement. Moins rapidement, mais c'est pas parce qu'on va être 100% en confinement que le virus va stopper de propager. On va atteindre quand même des statistiques assez élevées, même si on est en pré-confinement. Faut pas l'oublier, la première vague nous l'a prouvé.
Mm-hmm. Donc, on fait quoi, sachant ça?
Ben moi, je pense que ce que le gouvernement doit faire, puis j'espère que c'est ça qu'il va nous annoncer ce soir, c'est qu'avec toutes les données épidémiologiques là, qu'il a accumulées depuis les 4-5 derniers mois, puis les 30 000 tests qu'il fait par jour, puis tous les épidémiologistes, puis les gens qui appellent les gens qui ont la COVID, vous l'avez attrapé de où? Autrement dit, est-ce que c'est d'un bar, est-ce que c'est d'un party privé, est-ce que c'est d'une soirée à karaoké, est-ce que c'est en jouant à un sport intérieur? Présentement, on le sait pas. T'sais, on sait cette information qu'on goûte. Moi, ce que j'aimerais, c'est de dire quelles sont les statistiques d'où est-ce que les gens ont attrapé la COVID et de dire, ben, on focus là-dessus. J'écoutais le président là, de l'association des bars. Il disait, on n'est pas coupable. Ben, c'est possible qu'il n'est pas coupable, mais le gouvernement ne dit pas l'inverse. Dans le sens que on n'a pas de statistiques probantes épidémiologiques d'où est-ce que proviennent les cas positifs. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça que le gouvernement a fait les fameux codes rouges, oranges, pour déterminer et décortiquer où provient la contamination. Et c'est ça, ce soir, que j'aimerais avoir un beau graphique de dire, écoutez, là, sur, je sais pas, moi, 3 000 personnes qui ont attrapé la COVID dans les derniers mois, ça vient de où principalement? Et c'est ça qu'on devrait avoir, et c'est là-dessus que le gouvernement devrait cibler ces codes rouges et adapter une discipline plus forcée pour pas pénaliser tout le monde en même temps.
Et ça, Marc Hamilton, comme microbiologiste, vous ça se fait, là. Vous êtes habitué, vous, par exemple, à faire ce genre de choses. Les épidémiologistes, c'est ce qu'ils font aussi, là, être capable de déceler d'où vient une épidémie.
Ben exactement, et c'est ça qu'il faut anticiper les coûts. Et les rôles de l'épidémiologie, c'est de voir l'étendue de la deuxième vague, de voir jusqu'à où que va aller les statistiques, d'établir à partir quand sera le pic, et surtout en ce qui me concerne, et je le répète, d'où viennent les cas positifs? Est-ce que ça vient de... Oui, c'est une transmission communautaire, mais elle vient-tu parce que les gens font des pique-niques à l'extérieur? Vient-tu des parties de sous-sol? Bon, on le sait trop pas. Et c'est ça qu'il faut savoir. Parce que les gens veulent pas retomber confinés encore 40 jours. Parce qu'un confinement, hein, c'est 40 jours. Ça nous tente pas. Et je comprends aussi que dans les prochaines semaines, il n'y a pas seulement... Tu sais, l'avantage qu'on avait, entre guillemets, le printemps dernier, c'est qu'on s'en allait vers l'été, le beau temps. Là, on s'en va vers l'hiver, le froid, les gens restent à l'intérieur, les grippes saisonnières. Donc, tout va arriver en même temps, en peu de temps. Et c'est ça qu'il faut faire exploser. Puis c'est ça que le gouvernement veut pas qu'arrive. Le taux d'hospitalisation qui ne sera pas seulement associé à la COVID, mais aux autres types de virus respiratoires qui circulent. Donc, c'est pas une mince affaire, les décisions qu'il y a à prendre là, dans les prochains jours.
Christian Dubé semblait insister sur 28 jours. Il disait, ça nous prend là, un autre 28 jours où il faut que les gens restent tranquilles, restez chez vous. On va donner encore un coup. Pourquoi il disait 28 jours?
Ben c'est parce qu'ils ont sait que dans les 28 prochains jours, on va vivre le pic. Comme c'est là, on le sait, là, qu'on sait que le pic devrait arriver. Parce qu'on sait qu'une épidémie, on sait, là, quand on dit une quarantaine de 40 jours, c'est souvent le temps que ça prend entre le début de la progression, comme on le vit présentement, jusqu'au temps qu'on devienne en contrôle d'ici, je crois, j'espère, en début décembre. Donc, ces fameux 40 jours-là, lui, il l'a rappelé à 28 jours, parce qu'il y a déjà 12 jours de passé, à mon avis, qu'à calculer. Donc, le 28 jours nous ramène beaucoup plus vers la fin octobre. Et la fin octobre, en principe, je peux garantir qu'on va être encore en contrôle, parce que moi, je pense qu'au 28 jours, on va être encore dans le pic. Lui, ce qu'il se dit, c'est dans les 28 prochains jours, je veux ralentir mon pic. Je veux pas que mon pic devienne astronomique, qu'on atteigne les 2000 cas par jour. Je veux pas. Fait que lui, il se dit, on sait que le pic va arriver, mais on veut pas que le pic devienne aussi élevé que la premier pic qu'on a connu au mois d'avril. Donc, c'est ça qu'il se dit.
Mm-hmm. Vous, là, si vous étiez au gouvernement, Marc Hamilton, comme microbiologiste, vous décideriez quoi, là?
Ça, j'aimerais ça vous le dire plus en détail. Mais moi, j'aimerais améliorer beaucoup plus la communication, voire développer plus d'outils pour découvrir d'où proviennent les gens qui sont contaminés. Donc, je pousserais les statistiques à son paroxysme, autrement dit, d'être capable de cibler, de décortiquer et d'anticiper d'où vient l'épidémie. Et j'accentuerais la protection pour les personnes âgées. Et moi, je pense que les 70 ans et plus, il faut surtout pas que durant ce qui va s'en venir, qu'on revienne comme on l'était en mars dernier, où est-ce qu'on sait, hein, 80% des décès, c'était les 70 ans et plus. Là, l'avantage qu'on a statistiquement, c'est que seulement 10% des cas touchent les 70 ans et plus. On sait que les cas positifs maintenant, hein, c'est dans les 18-30 ans, où est-ce qu'on a plus de 50% de ces gens-là. Donc, ça leur virait le bord, mais il faut surtout pas que les personnes âgées soient atteintes une deuxième fois aussi fortement qu'on l'a connu. Donc, il faut vraiment que le gouvernement accentue la protection dans les CHSLD. Mais comme je vous dis, puis je le répète, les leaders dans le monde, c'est de prendre des décisions difficiles avec des réponses incomplètes. Et c'est ça qui est la boule de cristal. C'est qu'on n'a pas les réponses complètes, mais il faut agir en leader. Et j'espère que les réponses qui vont nous donner aux questions ce soir vont être à la hauteur de ce qu'on attend.
Voilà. Et merci beaucoup, Marc Hamilton, microbiologiste. On risque de se reparler d'ici la fin de la semaine. Marc, merci bien. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole.
Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Rouge.
Ben, je vous encourage fortement à être à l'écoute de notre antenne à 17h30 ce soir, en fin d'après-midi. En fait, le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé, Christian Dubé, vont réagir et nous expliquer surtout comment ils considèrent que l'alerte rouge sera appliquée, puisqu'il semble qu'au cours des prochaines heures, prochains jours, Montréal et Québec, entre autres, avancent allègrement dans cette zone-là, rouge. Selon le code couleur qu'il nous avait expliqué, je le rappelle, là, beaucoup de gens me posent des questions là-dessus. Ça veut dire quoi, l'alerte rouge? En théorie, ça veut dire qu'on cesse les activités non essentielles. Fait qu'on peut penser à tout ce qui n'est pas essentiel. Les gens me disent, qu'est-ce qui va se passer pour les salons de coiffure et esthétique? Effectivement, on peut supposer que c'est non essentiel. Mais encore là, est-ce qu'on va y aller un peu selon les guides de la première vague ou on va prendre des mesures différentes? On le sait pas. Puis je pense que même eux, ils ont besoin des prochaines heures au gouvernement pour bien réfléchir à ça. Puis moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on consulte pas quand même les industries en cause. Entre autres, l'industrie des restaurateurs, l'industrie des propriétaires bars, brasseries et tavernes qui ont quand même payé beaucoup. Ils ont payé un prix cher là pour cette pandémie. Et puis, malheureusement, on le sait, quand notre microbiologiste, Mark Hamilton, nous dit d'où viennent les nouveaux cas, le gouvernement devrait être en mesure de nous donner des chiffres plus détaillés. Il a raison. En même temps, bon, c'est pas comme si le gouvernement nous disait pas que c'était dans nos maisons privées. On le sait, ça aussi. Sébastien, comment vous voyez la chose, vous? Bonjour.
Bonjour, Isabelle. Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre où est-ce que notre monde s'en va. Si on regarde, là, vous parlez des restaurants, c'est horrible comment ils ont dû à souffrir. Quand on comprend personnellement que si quelqu'un investit beaucoup puis qu'il se retrouve dans cette situation-là, je trouve ça difficile. D'un, quand je vais au restaurant, les mesures sont toutes appliquées, donc je vois pas le rapport au niveau du restaurant. Peut-être des bars, là, je suis pas été là-dedans, là, je pourrais pas vous dire. Mais au niveau aussi de la dangerosité présentement du virus, si on regarde ça, là, moi, là, j'ai un beau-frère qui est d'un bord, que lui, il est prêt à traiter tout le monde de tataire comme ça. Puis j'ai un frère, tout est complotiste.
Ça va bien?
Je m'en baisse, ça me rend nerveux quand je parle à la radio.
Je vous entends plus très bien, par exemple, mais je comprends que vous êtes coincé en deux personnes qui semblent, pour qui le message passe pas. C'est ça que vous dites, Sébastien?
En ces deux-là, puis en même temps, ouais. Si on regarde le nombre de cas, puis on regarde le nombre de morts, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais je suis en train de dire, est-ce qu'on va continuer à... Tu sais, il y a juste un milieu à faire, là.
Ouais.
On sauve aussi des personnes, si on sauve trois personnes, puis on tue 20 000 compagnies, je m'excuse,
ouais.
Des trois personnes qui vont peut-être mourir, peut-être, ça fait partie de la vie, hein. Quand vous prenez votre véhicule le matin, vous avez des chances de mourir aussi à ce moment-là, donc tout est un risque dans la vie, mais là, il y a un calcul à faire, là.
Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Mélanie, bonjour.
Oui, bonjour, Isabelle. D'abord, Isabelle, merci de me donner cette tribune-là ce matin.
Merci à vous.
Je suis restaurateur à la ville de Beauharnois, du restaurant L'Usine Fabrique à manger, qui fait partie de la CMM. Et malheureusement, on n'est pas consulté du tout. T'sais, nous, ça a été c'est notre 13, ça va faire à peine 2 ans la semaine prochaine qu'on est ouvert. On a été fermé 4 mois déjà sur 2 ans dû à la précédente pandémie. Et on sait ce qu'on a perdu en 4 mois, ça sera jamais récupérable. Donc là, refermer une deuxième fois, ça c'est mettre à mort notre entreprise qu'on est en train de remettre sur pied en ce moment. Parce que post-pandémie, je vous dirais qu'on a mis les mesures sur pied. On en a fait plus que pas assez pour justement mettre notre clientèle en sécurité. Puis je vous dirais que les commentaires en ce moment qu'on a, la police est venue, ils n'ont jamais vu ça, un restaurant qui suit bien en ce moment les consignes comme ça, super sécuritaire. Puis les clients en ce moment qui viennent nous disent, mon Dieu, tu sais, vous allez être notre échappatoire pour le restant de l'hiver. Là.
Et c'est important d'en avoir. Oui, c'est important
d'en
avoir.
Puis c'est ça. Puis tu sais, ils iront pas en vacances cet hiver, donc il va falloir qu'ils viennent au restaurant pour garder le moral. Ça va être leur gâterie, ça va être leur sortie. Donc, de refermer en ce moment, nous, c'est sûr qu'on s'en sort pas. Puis tu sais, de voir Christian Dubé qui dit aux nouvelles, je dis, restez chez vous, allez pas au restaurant, quasiment en train de dire, vous allez mourir, vous allez attraper le COVID, mais que 5 minutes après, il y a des grosses annonces, les auditions de Star Academy à la télé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Là. Moi, honnêtement, je bouille depuis jeudi parce que je pense...
Puis hier, avez-vous regardé tout le monde en parle? Hier, avez-vous regardé tout le monde en parle? Parce qu'il disait,
oui,
on va demander des sacrifices importants aux bars puis aux restaurants.
Ben moi, le take-out, c'est pas tout le monde. Tu sais, les plats emportés puis la livraison. Moi, j'ai pas de système de livraison. On s'est réinventé un peu pendant ce moment-là, mais c'est pas tout le monde qui adopte ça. ce système-là.
Ouais.
Je veux dire, ça ne permet pas de payer le loyer, ça ne permet pas de payer les fournisseurs.
C'est
moi,
ça.
Je ne serais pas capable de remporter puis de rencontrer mes obligations pour les prochaines semaines si on est obligé de fermer, que ce soit 28, 40 jours ou les prochains mois. Impossible ouais. que mon rêve va pas mal couler là, en ce moment. Donc, on est un peu sur la panique. On a hâte à 17h30 de voir, puis en espérant qu'il va y aller par région ou faire du cas par cas. C'est Beauharnois, c'est pas à 2 minutes de Montréal. Là.
Tout à fait. Mélanie, écoutez, on va vous souhaiter le plus grand des courages. Vous en avez déjà fait preuve beaucoup. On va espérer que le gouvernement n'en vienne pas là. En même temps, il faut ce qu'il faut. Fait qu'on va suivre leurs indications. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire aux gens qui n'écoutent pas encore... regardez, là, on est pas mal les deux pieds dedans à nouveau. On va poursuivre, nous, là-dessus, surtout sur votre morale aussi. Ben, je pense que ça nous atteint pas mal tout seul. On s'en parle après les nouvelles.